James Graham Ballard. La cage de sable.
Épisode 3. Dernier épisode.
Louise. Elle eut un sursaut involontaire et trébucha sur un fragment de l'enseigne au néon, puis recula vers la balustrade qui surplombait le boulevard. « Madame Woodward !» Bridgman la retint par l'épaule et lui mit une main sur la bouche avant qu'elle ne crie. « Les gardiens sont en bas. Ils surveillent l'hôtel. » Il faut trouver Travis avant qu'il ne revienne. Louise hésita, ne reconnaissant visiblement Bridgman qu'avec effort, et son regard s'éleva vers le ciel de marbre noir. Bridgman consulta sa montre. Il était presque 00:25. Il scruta les étoiles au sud-ouest. « Ils sont presque là maintenant, » murmura Louise. « Je dois les voir. »« Où est Travis ?»« Il devrait être ici. » Bridgman la tira par le bras. « Peut-être qu'il a vu le tank des sables. »« Madame Woodward, il faut partir. » Soudain, elle montra le ciel, s'arracha à lui et courut à la balustrade. « Les voilà !» Inquiet, Bridgman attendit qu'elle se soit emplie les yeux des deux points lumineux jumeaux fonçant depuis l'horizon occidental. C'était Merrill et Pokrovski. Comme tous les écoliers, il connaissait à la perfection les séquences second système de constellations de périodicité et de précession, beaucoup plus complexes mais plus tangibles aussi. Les Castor et Pollux du zodiaque orbital, dont l'apparition annonçait toujours une pleine conjonction pour la nuit suivante. Louise Woodward les contemplait de la balustrade. Le vent qui se levait écartait ses cheveux de ses épaules et les repoussait à l'horizontale derrière sa tête. La poussière martienne rouge tournoyait et crissait à ses pieds, ensablant les débris de la vieille enseigne au néon, et une brillante écume rose coulait de ses longs doigts qui caressaient le rebord du balcon. Quand les satellites eurent enfin disparu parmi les étoiles à l'horizon, elle se pencha en avant, le visage levé vers la lune de lait bleuté comme pour retarder leur départ, puis se retourna vers Bridgman avec un sourire radieux. Ses soupçons récents évanouis, Bridgman lui rendit son sourire d'un air encourageant. « Roger sera là demain soir, Louise. Il faudra faire attention à ne pas nous laisser capturer par les gardiens avant de l'avoir vu. » Il ressentit une soudaine admiration pour elle, pour la fermeté stoïque qu'elle avait manifestée durant sa longue veille. Peut-être croyait-elle que Woodward était toujours vivant et en quelque sorte attendait-elle son retour avec impatience. Bridgman se souvint qu'elle lui avait dit un jour « Roger n'était qu'un petit garçon quand il est parti, vous savez. Je me sens plutôt sa mère maintenant. » Comme si elle avait peur de la réaction qu'aurait eue Woodward devant sa peau parcheminée et sa chevelure terne, craignant qu'il puisse même l'avoir oubliée. Sans le moindre doute, la mort qu'elle imaginait pour lui était d'un ordre différent de celle qui frappe le commun des mortels. Main dans la main, ils descendirent sur la pointe des pieds les marches qui s'émiettaient et sautèrent par la fenêtre d'une terrasse sur le sable meuble en dessous du brise-vent. Bridgman plongea jusqu'aux genoux dans la fine poussière de lune argentée, puis se hissa sur un sol plus ferme en tirant Louise derrière lui. Ils grimpèrent par une brèche dans les palissades branlantes et coururent, loin de la rangée des hôtels morts qui se profilaient comme autant de crânes dans la lumière vide. « Attendez, Paul !» La tête toujours levée vers le ciel, Louise Woodward tomba à genoux dans un creux entre les dunes et clopina en riant derrière Bridgman qui courait à travers trous et bosses. Le vent fouettait maintenant le sable des plus hautes crêtes et des rafales de poussière s'échappaient comme des vaguelettes excitées. À 100 mètres de là, la ville était un décor de cinéma pâlissant, projeté par la caméra oscura de la lune qui se couchait. Il se tenait là où l'Atlantique avait jadis une profondeur de 20 mètres. Et Bridgman perçut de nouveau, parmi le moutonnement tremblotant de la poussière phosphorescente, les effluves iodées piquant comme des bancs d'animalcules. Il attendit un signe de Travis. Louise, il va falloir retourner en ville. Une tempête de sable se lève. Ce n'est pas ici que nous verrons Travis. Ils revinrent à travers les dunes et se frayèrent un chemin par les ruelles étroites, entre les hôtels, vers l'entrée nord de la ville. Bridgman trouva un observatoire dans un petit immeuble et ils s'installèrent, regardant, par-dessous le linteau d'une fenêtre dans la rue en pente, calée sur un coussin agréable de sable chaud. Aux intersections, des nuages blancs de poussière traversaient la chaussée, cachant le véhicule des vigiles garé à 100 mètres plus loin sur le boulevard. Une demi-heure après, un moteur gronda et Bridgman se mit à amasser le sable dans l'embrasure. Ils s'en vont, Dieu merci. Louise Woodward lui prit le bras. Regardez ! À 20 mètres, sa combinaison de vinyle blanc à moitié cachée par les nuages de poussière, l'un des gardiens s'avançait lentement vers eux, en agitant légèrement son lasso à bout de bras. À quelques pas derrière lui, un deuxième gardien examinait aux jumelles les fenêtres de l'immeuble. Bridgman et Louise ressortirent en rampant sous le plafond bas, puis se creusèrent un chemin sous le linteau jusqu'à la cuisine, au fond de l'appartement. Une fenêtre donnait sur une cour emplie de sable, et ils filèrent dans la poussière qui tourbillonnait entre les immeubles. Soudain, à un tournant, ils virent les gardiens se déplacer en file indienne dans une rue transversale, le tank des sables avançant lentement derrière eux. Avant que Bridgman ait pu s'immobiliser, un spasme douloureux le prit au mollet droit, lui nouant le muscle jumeau, et il tomba sur un genou. Louise Woodward le tira contre le mur et montra du doigt une silhouette trapue aux jambes arquées qui marchait péniblement vers eux sur la route en courbe par laquelle on accédait à la ville. « Travis !» Il balançait le sac à outils dans sa main droite et ses pieds résonnaient faiblement sur le treillis métallique de la piste. La tête baissée, il semblait inconscient de la présence des gardiens cachés au tournant de la route. Sans s'inquiéter de leur minuscule marge de sécurité, Bridgman se remit debout et s'élança impétueusement au milieu de la chaussée. Louise essaya de l'arrêter, et ils n'avaient pas franchi 10 mètres quand les gardiens les aperçurent. Il y eut un cri d'avertissement et le projecteur abaissa son cône géant dans la rue. Le véhicule bondit en avant, comme un taureau massif couvert de poussière, ses chenilles griffant le sable. « Travis !» Lorsque Bridgman atteignit le tournant, Louise Woodward à 10 mètres derrière lui, Travis sortit de sa rêverie et jeta le sac à outils sur son épaule pour courir devant eux, vers l'amas des toits de motel qui dépassaient de l'autre côté de la rue. À la traîne derrière les autres, Bridgman sentit à nouveau la crampe s'attaquer à sa jambe et la souffrance le força à ralentir sa course. Quand Travis revint sur ses pas pour le chercher, Bridgman essaya de l'en dissuader, mais Travis lui plia le bras dans le dos et le propulsa devant lui comme un infirmier maîtrisant un malade mental. La poussière tourbillonnant autour d'eux, ils disparurent par les rues floues dans le désert et les cris des gardiens se perdirent dans le grondement et les clameurs du moteur emballé. Autour d'eux, comme l'insolite flore métallique d'un jardin extraterrestre, les vieilles enseignes au néon crevaient le sable martien rouge. Satellite motel. Planète bar. Mercury hôtel. Cachés par elle, ils atteignirent les dunes couvertes de broussailles à l'orée de la ville, puis empruntèrent une des pistes qui s'éloignait vers les récifs de sable. Là, dans les profondes grottes de sable comprimées, suspendues comme des palais inversés, ils attendirent que la tempête s'apaise. Peu avant l'aube, les gardiens abandonnèrent les recherches, incapables d'amener le lourd tank des sables jusqu'au récif en voie de désintégration. Au mépris des gardiens, Travis alluma un petit feu avec son briquet, brûlant des bouts d'épave qui s'étaient accumulés dans les ravines. Bridgman s'accroupit à côté pour se réchauffer les mains. C'est la première fois qu'ils sont équipés pour quitter leur engin, ce qui veut dire qu'ils ont reçu l'ordre de nous capturer. Travis haussa les épaules. Peut-être. Ils sont en train d'étendre la clôture tout au long de la plage. Ils ont probablement l'intention de nous enfermer à perpète.
Quoi ?
Bridgman se dressa avec une soudaine sensation de malaise. Mais pourquoi ? « Vous en êtes sûr ? Je veux dire, à quoi ça servirait ?» Travis leva les yeux vers lui, une expression d'amusement retenue sur son visage décoloré. Des filets de fumée couronnaient sa tête et entouraient les colonnades serpentines de la grotte pour disparaître par les cheminées qui s'ouvraient sur le ciel à 30 mètres au-dessus d'eux. « Bridgman ?» Pardonnez-moi de vous le dire, mais si vous voulez partir, c'est maintenant ou jamais. Dans un mois, ce ne sera plus possible. Bridgman ignora l'invite et scruta la faille de ciel noir qui encadrait la constellation du Scorpion, comme s'il espérait y voir un reflet de la mer lointaine. Ils doivent être cinglés. Elle était longue, cette portion de clôture ? 800 mètres environ. Il ne leur faudra pas longtemps pour terminer l'ouvrage. Les sections sont préfabriquées d'une douzaine de mètres de hauteur. Il eut un sourire ironique devant le malaise de Bridgman. Détendez-vous, Bridgman. Si vous voulez vraiment sortir, vous pourrez toujours creuser un tunnel par-dessous. Je ne veux pas partir, dit froidement Bridgman. Les salauds, Travis. Ils sont en train de transformer l'endroit en zoo. Vous savez que ce ne sera plus la même chose avec une clôture tout autour. Un coin de la Terre qui sera Mars à jamais. Sous le front élevé, les yeux de Travis étaient perçants et inquisiteurs. Je comprends leur point de vue. Il n'y a pas eu de mort. Il jeta un coup d'œil à Louise Woodward qui faisait les 100 pas entre les colonnades. Depuis près de 20 ans maintenant. Et les fusées pour passagers sont censées être aussi sûres que des trains de banlieue. Ils sont en train de boucler le passé. Louise, et vous, et moi avec. Je pense qu'il est plutôt prévenant de leur part de ne pas incendier l'endroit où lance-flammes. Le virus serait un prétexte suffisant. Après tout, nous sommes sans doute les seuls porteurs de la planète. Il ramassa une poignée de sable rouge et examina les fins cristaux d'un air sombre. « Alors, Bridgman, qu'est-ce que vous allez faire ?» Bridgman s'éloigna sans répondre. Ses pensées fusaient d'elles-mêmes dans son esprit comme de frénétiques signaux lumineux. Derrière eux, Louise Woodward errait dans les galeries profondes de la grotte, fredonnant pour elle-même à voix basse au rythme des soupirs du sable tourbillonnant. Le lendemain matin, ils retournèrent en ville, pataugeant dans les profondes congères de sable qui s'étalaient comme une récente chute de neige entre les hôtels et les magasins, rouges et coruscantes sous le grand soleil. Travis et Louise Woodward se dirigèrent vers leur quartier dans les motels, plus loin sur la plage. Bridgman fouilla l'air calme, cristallin, à la recherche d'un signe de la présence des gardiens, mais le tank des sables était parti, ses traces oblitérées par la tempête. Dans sa chambre, il trouva leur carte de visite. Une énorme masse de poussière avait déferlé par les portes-fenêtres et submergé le bureau et le lit sous 1 mètre d'épaisseur jusqu'au mur du fond. Dehors, le pare-sable avait été englouti et les contours du désert s'étaient complètement modifiés. Quelques flèches d'obsidienne balisant ses perspectives antérieures, telles des bouées sur une mer changeante. Bridgman passa la matinée à exhumer ses livres et son matériel, démonta l'installation électrique et ses batteries, et transporta le tout dans la chambre du dessus. Il aurait bien déménagé au dernier étage, mais ses lumières auraient été visibles à des kilomètres. Installé dans ses nouveaux quartiers, il mit en marche le magnétophone pour entendre un court message sans mots inutiles, prononcé par la voix alerte qui avait crié des ordres aux gardiens le soir précédent.
Bridgman, ici le major Webster, commandant adjoint de la réserve de Cocoa Beach. Sur les instructions de la sous-commission antivirale de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous construisons une barrière continue autour de la zone littorale. Lorsque les travaux seront achevés, nulle sortie ne sera autorisée et quiconque s'échapperait serait immédiatement ramené à la réserve. Rendez-vous maintenant, Bridgman, avant...
Bridgman arrêta la bande, la rembobina et effaça le message avec un coup d'œil furieux vers l'appareil. incapable de s'atteler à la tâche de remettre en marche l'installation électrique de la chambre, il fit les 100 pas, tripotant les dessins architecturaux appuyés contre le mur. Il se sentait nerveux, surexcité, peut-être parce qu'il avait essayé de refouler, sans grand succès, les doutes mêmes que Webster venait de lui rappeler. Il passa sur le balcon et contempla le désert, les dunes rouges à l'assaut des fenêtres juste en dessous. Pour la 4e fois, il avait grimpé d'un étage, et la succession de chambres identiques qu'il avait occupées étaient comme des images décalées de lui-même, vues à travers un prisme. Leur point commun, l'évanescente définition de lui-même qu'il avait cherché si longtemps, restait encore à trouver. Sans répit, le sable fluait devant lui, ses contours changeant, approchant de plus près que tout autre paysage connu de lui le zéro psychique complet, enveloppant ses incertitudes et ses échecs passés, les masquant sous un énigmatique dais. Bridgman regarda le sable rouge scintiller, fluorescent, dans la lumière écrasante du soleil. Il ne verrait jamais Mars à présent, pour racheter son défaut implicite de talent. Mais une réplique acceptable de la planète était contenue dans la zone de la plage. Plusieurs millions de tonnes du sol superficiel de Mars avaient été ramenées comme ballast quelques 50 ans plus tôt, quand on avait craint que l'envol continuel de sondes planétaires, de véhicules spatiaux et le transport de cargaisons et de matériel vers Mars ne diminuent légèrement la masse gravitationnelle de la Terre et ne l'amènent sur une orbite plus proche du Soleil. Bien que la distance en jeu ne doive être que de quelques millimètres au plus, et ne risque d'élever qu'à peine la température de l'atmosphère, ces effets cumulés sur une longue période pourraient amener une fuite dans l'espace de la couche ténue de l'atmosphère extérieure et du voile radiologique qui seul rendait la biosphère habitable. Sur une période de 25 ans, une flotte de gros cargos avait fait la navette entre la Terre et Mars, déversant le ballast dans la mer près des terrains d'atterrissage de Cap Canaveral. Simultanément, les Russes comblaient une petite partie de la mer Caspienne. L'idée était que ce ballast serait englouti par les eaux de l'Atlantique et de la Caspienne, mais on n'avait pas tardé à découvrir que l'analyse microbiologique du sable n'avait pas été poussée assez loin. Sur les calottes polaires de Mars, où s'était condensée la vapeur d'eau originelle de l'atmosphère, un résidu de matière organique primitive constituait le sol superficiel, fin l'os sableux contenant les spores fossilisés de mousse et de lichens géants, qui avaient été les derniers organismes vivants de la planète des millions d'années auparavant. Incrustés dans ces spores se trouvaient les réseaux cristallins des virus dont les plantes avaient été jadis les proies, et des traces de ceux-ci avaient été transportées sur Terre avec le ballast de Cap Canaveral et de la mer Caspienne. Quelques années plus tard, une augmentation massive d'une large gamme de maladies des plantes fut constatée dans les États du Sud des USA et les républiques soviétiques du Kazakhstan et du Turkménistan. Dans toute la Floride, il y eut des flambées de rouille des céréales et de mosaïques du tabac. Les plantations d'orangers se flétrissaient et mouraient. Les palmiers rabougris se fendillaient au bord des routes comme des peaux de bananes sèches. Les herbes, se durcissaient en poignards de papier sous la canicule. En quelques années, la péninsule entière fut transformée en un désert. Les jungles marécageuses des Everglades se décolorèrent et s'asséchèrent. Les lits craquelés des rivières étaient jonchés de squelettes luisants de crocodiles et d'oiseaux. Les forêts pétrifiées. L'ancienne base de lancement de Cap Canaveral fut fermée. Peu après, les stations balnéaires autour de Cocoa Beach furent interdites et évacuées. Des milliards de dollars de propriétés abandonnées au virus. Ne s'attaquant heureusement jamais aux animaux, son influence restait confinée dans un petit rayon à l'extérieur du los originel qu'il avait transporté, à moins d'être ingéré par l'organisme humain, auquel cas il entrait en symbiose avec les bactéries de la flore intestinale. Inoffensif et imperceptible pour son hôte, mais dévastateur pour la végétation à des milliers de kilomètres de Canaveral s'il retournait au sol. Incapable de se reposer malgré sa nuit sans sommeil, Bridgman jouait rageusement avec le magnétophone. Pendant la fuite de leur trio devant les gardiens qui les serraient de près, il avait presque espéré se faire prendre. La mystérieuse crampe de sa jambe avait de toute évidence une origine psychosomatique. Bien qu'incapable d'accepter consciemment la logique de l'argumentation du major Webster, il aurait volontiers accepté le fait accompli d'une capture physique. Ce serait avec reconnaissance soumis à la quarantaine d'un an à l'unité de décontamination parasitologique de Tampa. Et puis aurait repris sa carrière d'architecte, désillusionné, mais acceptant son échec. Jusque-là, toutefois, l'occasion de se rendre ne s'était jamais présentée. Travis semblait être conscient de ses motivations ambivalentes. Bridgman remarqua que Louise Woodward et lui n'avaient pas explicitement prévu de le rencontrer ce soir pour la conjonction. En début d'après-midi, il descendit dans les rues, progressant péniblement dans les congères de sable rouge, et essaya de suivre les traces de Travis et de Louise qui zigzaguaient d'une rue transversale à l'autre avant de disparaître dans les dunes caillouteuses submergeant les motels du sud de la ville. Il finit par abandonner et s'en retourna par les rues vides et sans ombre, lançant çà et là un cri dans l'air brûlant pour écouter les échos se répercuter dans les dunes. Plus tard, dans l'après-midi, il se dirigea vers le nord-est, cheminant prudemment dans les ravines et les creux, s'accroupissant dans les mares d'ombre chaque fois que le vent lui apportait les bruits lointains des équipes au travail sur le chantier de la clôture. Autour de lui, dans les grands bassins de poussière, les grains de sable rouge scintillaient comme des diamants. Des ardillons de métal rouillé saillaient des pentes, vestiges de satellites martiens et d'étages propulseurs qui étaient retombés sur les déserts martiens, puis avaient été ramenés sur Terre. Un fragment qu'il dépassa, section intacte de coque en forme de bouclier concave, portait encore une partie de son chiffre d'identification et se dressait dans le sable en déliquescence, comme une porte sur nulle part. juste avant le crépuscule, il atteignit un grand éperon d'obsidienne qui s'élevait dans le ciel cerise, comme la flèche d'une église en ruine, escalada ses corniches en surplomb et examina les 2 ou 3 kilomètres qui le séparaient du périmètre. Les grilles de métal rayonnaient d'un éclat rose dans les dernières lueurs du jour, comme des hers sphériques sur la rive d'une mer enchantée. Au moins 1 demi-kilomètre de clôture avait été érigé. Sous les yeux de Bridgman, une autre des sections géantes préfabriquées fut dressée, puis scellée au sol. Déjà, l'horizon oriental était coupé par la barricade importune qui enfermait le sable martien, comme du gravier éparpillé au fond d'une cage. Perché sur l'éperon, Bridgman éprouva un tremblement de douleur prémonitoire dans le mollet. Il sauta dans un éclaboussement de poussière et partit, sans regarder en arrière parmi les dunes et les récifs. Plus tard, alors que les dernières volutes baroques du crépuscule s'évanouissaient sous l'horizon, il attendit Travis et Louise Woodward sur le toit, scrutant impatiemment les rues vides éclairées par la lune. Peu après minuit, à une élévation de 35 degrés au sud-ouest, entre l'Aigle et Ophutius, la conjonction commença. Bridgman continua à observer les rues et négligea les 7 points rapides de lumière qui fonçaient vers lui depuis l'horizon, comme une invasion venue des profondeurs de l'espace. Rien n'indiquait que leur trajectoire orbitale allait converger puis les éparpiller bientôt à des milliers de kilomètres les uns des autres, et les satellites se déplaçaient comme s'ils avaient toujours été ensemble, dans la configuration serrée que Bridgman connaissait depuis l'enfance comme un emblème zodiacal, une constellation détachée de la sphère céleste, et cherchant toujours frénétiquement à retrouver sa place. Travis, au diable ! Avec un grognement, Bridgman s'éloigna du balcon et suivit la section de balustrade à découvert derrière le château de l'ascenseur. Être évité comme un paria par Travis et Louise Woodward le forçait à admettre qu'il n'était plus un authentique habitant de la plage et évoluait maintenant dans un territoire neutre, situé entre eux et les gardiens. Les 7 satellites se rapprochaient et Bridgman leva les yeux vers eux avec indifférence. Ils étaient disposés en un ensemble remarquable mais inhabituel. La lettre grecque Xi, une croix molle, une branche droite inclinée contenant 4 capsules plus ou moins en ligne, Connolly, Tkachev, Merrill et Mayakovsky, coupé par 3 autres formant avec Tkachev un Z allongé, Pokrovsky, Woodward et Brodysnek. Ce motif avait été diversement comparé au marteau et à la faucille, à un aigle, une svastika et une colombe, aussi bien qu'à une série d'emblèmes religieux et runiques, mais tous ces symboles étaient menacés par la tendance de plus en plus nette qu'avaient les plus vieilles capsules à se vaporiser. C'était cette lente désintégration des coques d'aluminium qui les rendait visibles. On avait souvent fait remarquer que l'observateur au sol ne regardait pas en réalité la capsule elle-même, mais un champ local d'aluminium vaporisé et de peroxyde d'hydrogène ionisé provenant des tuyères de correction rompues, diffusées à partir de chaque capsule, dans une sphère d'1 kilomètre de diamètre. Celle de Woodward, la plus récente en orbite, était un point lumineux, à peine perceptible. Les masses des capsules, avec leurs cargaisons humaines parfaitement préservées, se dissolvaient continuellement, et un grand éventail d'argent s'ouvrait en un sillage fantôme derrière Merrill et Pokrovski, 1998 et 1999, comme une double étoile se transformant en nova au centre d'une constellation. À mesure que la masse des capsules diminuait, elle plongeait dans une orbite plus serrée autour de la Terre, toucherait bientôt les couches plus denses de l'atmosphère et s'écaserait au sol. Bridgman regardait les satellites s'avancer vers lui et en oubliait son irritation envers Travis. Comme à chaque fois, il se sentait ému par le spectacle mystérieux, mais étrangement paisible, du convoi fantôme qui, sans fin, traversait la mer sombre du ciel de minuit. Les astronautes morts depuis longtemps, convergeant pour la 10 000e fois vers leur bref rendez-vous, pour repartir sur leur trajectoire céleste solitaire, aux confins de l'ionosphère, cette ligne de marée de la plage spatiale qui les retenait captifs. Il n'avait jamais pu comprendre comment Louise Woodward pouvait supporter de lever les yeux vers son mari. Après son arrivée, il l'avait invitée une fois à l'hôtel, lui faisant remarquer qu'on avait là un excellent point de vue sur les splendides crépuscules, et elle l'avait amèrement coupé. « Splendide ? Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de regarder le crépuscule, quand votre mari y tourne, comme une toupie dans son cercueil ?» Cette réaction avait été générale. Quand les premiers astronautes étaient morts après avoir manqué leur contact avec les plateformes de lancement en orbite stable. Lorsque ces nouvelles étoiles se levèrent à l'ouest, on avait essayé de les abattre. On pensait à la perspective éprouvante d'un ciel, dans 1000 ans, parsemé de débris en orbite. Mais on les avait finalement abandonnés à leur cimetière naturel, où elles constituaient leur propre monument. Cachés par les nuages de poussière, soulevés dans les airs par la tempête de sable, les satellites brillaient, avec une intensité à peine plus grande que celle d'une étoile de deuxième grandeur, clignotant lorsque la lumière réfléchie était occultée par les bandes des cirrostratus. Le sillage de lumière diffuse derrière Merrill et Pokrovski, qui estompaient d'habitude les autres capsules, semblait avoir diminué de volume et, pour la première fois depuis plusieurs mois, Bridgman pouvait voir nettement aussi bien Mayakovsky que Brodysnek. Tout en se demandant lequel, de Merrill ou de Pokrovski, serait le premier à tomber de son orbite, il regarda vers le centre de la croix qui passait à la verticale. Avec un hoquet soudain, il renversa la tête. Stupéfait de voir que l'un des points lumineux familiers manquait au centre du groupe. Ce qu'il avait cru être une oblitération par les nuages de poussière des traînées mêlées de vapeur était simplement dû au fait que l'une des capsules, celle de Merrill, décida-t-il, la troisième de la ligne, avait quitté son orbite. Tête levée, il fit lentement quelques pas de côté sur le toit, évitant les morceaux rouillés de l'enseigne au néon, suivant le convoi qui passait à la verticale en direction de l'horizon oriental. La capsule de Woodward, qui n'était plus masquée par le sillage de celle de Merrill, brillait avec une netteté bien plus grande et semblait presque avoir pris sa place, bien que sa chute ne soit pas prévue avant un siècle au moins. Quelque part, au loin, un moteur gronda. Un instant plus tard, d'un endroit différent, une voix de femme cria faiblement. Bridgman revint à la balustrade et, par-dessus les toits qui l'en séparaient, il vit deux silhouettes découpées sur le ciel près du château d'ascenseur d'un immeuble résidentiel. Puis, il entendit Louise Woodward appeler encore. Elle montrait le ciel des deux mains, sa longue chevelure rejetée sur le visage, et Travis tentait de la maintenir. Bridgman comprit alors qu'elle avait mal interprété la chute de Meryl et croyait que l'astronaute qui tombait était son mari. Il alla jusqu'à l'extrême bord du balcon pour observer le tableau pathétique sur le toit lointain. De nouveau, quelque part dans les dunes, un moteur gémit. Avant que Bridgman puisse se retourner, une brillante lame de lumière trancha le ciel au sud-ouest. Fonçant comme une comète étirée jusqu'à l'horizon, par une immense traînée de particules vaporisées, l'objet se dirigeait vers eux, la courbe descendante de la trajectoire nettement visible. Détaché du reste des capsules, qui disparaissaient à présent parmi les étoiles à l'horizon oriental, il n'était qu'à quelques kilomètres du sol. Bridgman observa son approche, qui l'amènerait apparemment à heurter l'hôtel de plein fouet. L'auréole grandissante de lumière blanche, telle une gigantesque fusée éclairante, illuminait les toits, gravant en lettres de feu les enseignes au néon des motels ensevelis aux confins de la ville. Il courut vers la porte et, en dévalant les escaliers, vit l'incandescence de la capsule en perdition emplir les rues sombres comme une centaine de lunes. Quand il atteignit sa chambre, abrité par la masse de l'hôtel, il observa les dunes devant lui, éclairées comme une scène de théâtre. À 300 mètres. La coque basse camouflée du véhicule des gardiens était visible, arrêtée sur une crête, son projecteur noyé sous l'aveuglante lumière. Avec un profond soupir métallique, le catafalque brûlant de l'astronaute passa au zénith. Une cascade de métal vaporisé se déversa de sa coque, remplissant le ciel de lumière incandescente. Réfléchie en dessous de la capsule, comme une voie express illuminée par les phares d'un avion, une longue piste lumineuse, large de plusieurs centaines de mètres, fonçait dans le désert vers la mer. Au moment même où Bridgman se cachait les yeux, elle éclata en une terrifiante explosion de sable. Un immense rideau de poussière blanche s'éleva dans les airs et retomba lentement au sol. Le fracas de l'impact déferla contre l'hôtel dans un crescendo soutenu qui tambourina sur les fenêtres. Des explosions secondaires illuminèrent le ciel en série comme autant de fontaines opalescentes. D'un bout à l'autre du désert, des feux scintillèrent brièvement, là où des fragments de la capsule s'étaient éparpillés. Puis, le bruit diminua. Et un immense voile luisant de gaz phosphorescent resta suspendu dans les airs, comme un suaire d'argent dont les particules perlaient et clignotaient. À 200 mètres, la silhouette de Louise Woodward courait sur le sable. Travis à 20 pas derrière elle. Bridgman les regarda apparaître et disparaître entre les dunes, et soudain, le froid projecteur du tank des sables le frappa en plein visage, inondant la pièce derrière lui. Le véhicule avançait droit sur lui. Deux des gardiens, filets et lassos à la main, debout sur les marchepieds. Rapidement, Bridgman enjamba le balcon, sauta sur le sable et fonça vers la crête de la première dune. Il se baissa et continua sa course dans l'obscurité pendant que le faisceau lumineux fouillait les airs. Au-dessus, le voile luisant s'estompait lentement, les particules de métal vaporisé tombant vers le sable martien sombre. au loin. Les derniers échos de l'impact retentissaient parmi les hôtels des stations balnéaires plus au sud. 5 minutes plus tard, Bridgman avait rattrapé Louise Woodward et Travis. L'impact de la capsule avait nivelé un certain nombre de dunes, formant un bassin peu profond d'environ 400 mètres de diamètre. Les pentes alentour étaient parsemées de particules encore rougeoyantes qui scintillaient comme des yeux près de s'éteindre. Bridgman entendit le tank des sables ronfler à quelques 400 ou 500 mètres derrière lui et ralentit jusqu'à un trot poussif. Il s'arrêta près de Travis qui, agenouillé sur le sol, cherchait son souffle. À 50 mètres, Louise Woodward courait dans tous les sens, contemplant distraitement les fragments de métal qui brûlaient lentement. Un instant, le projecteur du véhicule l'illumina et elle s'enfuit en courant dans les dunes. Bridgman entrevit fugitivement une angoisse inconsolable sur son visage éploré. Travis était toujours à genoux. Il avait ramassé un morceau de métal oxydé et le pressait entre ses mains. Travis, pour l'amour de Dieu, dites-le-lui. C'était la capsule de Merrill. Il n'y avait pas le moindre doute à ce sujet. Woodward est toujours là-haut. Travis leva les yeux sur lui en silence, scrutant son visage. Un spasme de douleur lui tordit la bouche et Bridgman se rendit compte que l'éclat d'acier qu'il serrait entre ses mains avec dévotion était encore chauffé au rouge. Travis ! Il essaya d'écarter les mains de l'homme, l'irritante puanteur de la chair brûlée montant jusqu'à son visage, mais Travis s'arracha à lui. « Laissez-la tranquille, Bridgman. Retournez avec les gardiens. » Bridgman s'enfuit devant le véhicule qui approchait. À 30 mètres seulement, le faisceau de son projecteur remplissait le bassin. Louise Woodward fouillait toujours les dunes. Travis résista lorsque les gardiens sautèrent à bas du tank et s'avancèrent vers lui avec leurs filets, ses mains sanglantes écartées du corps, l'éclat d'acier étincelant comme un poignard. À la tête des gardiens, le seul à ne pas être masqué était un homme soigné, propre, au visage résolu et grave. Bridgman supposa que c'était le major Webster et que les gardiens, avertis de l'imminence de l'impact, avaient espéré les capturer tous les trois, et Louise en particulier, avant qu'ils se produisent. Bridgman recula en chancelant vers les dunes bordant le bassin. Comme il allait atteindre la crête, son pied se prit dans une plaque de métal semi-circulaire et il s'assit pour libérer son talon. Sans le moindre doute, c'était là un morceau du tableau de bord. Les cadrans ronds des instruments étaient encore intacts. Au-dessus, le voile de vapeur luisante s'était déplacé vers le nord-est et la lumière réfléchie tombait directement sur les portiques rouillés de ce qui avait été la base de lancement de Cap Canaveral. Pendant quelques secondes fugitives, ces structures furent enveloppées de reflets d'argent, transfiguré par le corps vaporisé de l'astronaute mort qui se diffusait sur elle en un geste d'adieu, son retour final au lieu d'où il s'était élancé vers la mort un siècle plus tôt. Puis les portiques replongèrent dans leurs ombres déchiquetées et le voile s'éloigna comme une immense apparition vers la mer, spectre à peine distinct de la clarté des étoiles. En contrebas, Travis était accroupi sur le sol, cerné par les gardiens. Il fuyait à quatre pattes, comme un crabe frénétique, écopant à la main du sable plein de virus qu'il leur jetait. Pressant leurs masques sur leur visage, les gardiens manœuvraient autour de lui, filets et lassos prêts à l'action. Un autre groupe s'avançait lentement vers Bridgman. Bridgman ramassa une poignée de sable martien près du tableau de bord, et sentit les doux cristaux brillants lui échauffer la paume. Il voyait encore en esprit les portiques gainés d'argent du site de lancement de l'autre côté de la baie, lesquels, par une curieuse illusion, étaient presque identiques à la ville martienne conçue par lui des années auparavant. Il regarda le voile qui disparaissait au-dessus de la mer, puis les autres restes de la capsule de Méril éparpillés sur les pentes autour de lui. Haut dans la nuit occidentale, entre Pégase et le Cygne, brillait le disque lointain de la planète Mars, qui, pour lui-même comme pour les astronautes morts, avait servi si longtemps de symbole à une ambition frustrée. Le vent frémit doucement sur le sable, refroidissant cette réplique de la planète qui gisait, passive autour de lui, et il comprit enfin pourquoi il était venu sur la plage, et pourquoi il avait été incapable de la quitter. À 20 mètres de là, Trévis était traîné comme un chien sauvage, son corps tressautant, ligoté au centre d'une toile de lasso. Louise Woodward s'était enfuie dans les dunes, en direction de la mer, à la poursuite du nuage de gaz évanoui. Dans un accès soudain de confiance retrouvée, Bridgman enfonça son poignet dans le sable sombre, enterra tout son avant-bras comme un pilier de fondation. Un fragment de métal incandescent provenant de la capsule de Méril lui brûla le poignet, le soudant à l'esprit de l'astronaute mort. En un sens. Éparpillé autour de lui dans le sable martien, Méril avait atteint Mars après tout. Nom de Dieu ! S'écria Bridgman pour lui-même d'une voix triomphante, tandis que les lassos des gardiens lui cinglaient le cou et les épaules. On a réussi !